Chers amis, c'est souvent dans les périodes de crise que les choses se révèlent. Depuis plusieurs semaines, nous sommes dans l'incertitude et c'est cette incertitude qui génère au minimum un mal-être, voire de l'anxiété ou même de l'angoisse. Nous avons besoin de certitude concernant la maladie, ses origines, son ou ses véritables modes de propagation, les traitements efficaces. Autant de réponses qui nous permettraient de nous projeter au moins dans un avenir proche. Ceux que j'aime échapperont-ils à la maladie? Pourrons-nous nous rapprocher de notre famille cet été? Quand verrons-nous nos amis? Quand pourrons-nous enfin nous réunir tous ensemble, nous tenir côte à côte pour chanter et prier? Autant de questions qui nous préoccupent. Mais comment se forger, à défaut de certitude, au moins des convictions? Les médias relaient des messages contradictoires. Les politiques, pourtant élus par des millions de citoyens, se contredisent quotidiennement. Dans leurs discours, si nous comprenons bien une part d'ignorance et d'erreur, nous décernons aussi la persistance de luttes de partis qui mettent en péril la vie de milliers de personnes. Pire encore, les autorités médicales, diplômées et reconnues, se laissent aller à des rivalités d'école qui les divisent, alors que nous aurions tellement besoin qu'elles s'unissent. Bien sûr, je ne parle pas des soignants dévoués et de tous ceux qui désirent aider de façon sincère. Mais à écouter tous les discours, nous ne pouvons que dire avec Socrate « Je ne sais qu'une chose ». C'est que je ne sais rien. Vous voyez où je veux en venir. Dieu seul est fidèle à sa parole. Dieu seul connaît toutes choses, notre avenir est pour lui un livre ouvert. Mais il est bon de le rappeler. Au cours des milliers d'années qui séparent la création de la révélation, jamais il ne s'est contredit, jamais il n'a menti, jamais il n'a trahi. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui, trouver un abri au cours de la tourmente. Et cependant, nous ne connaissons pas précisément ses plans. Nous ne sommes pas plus capables de dire ce qui va nous arriver. Mais dans la foi, ces questions perdent de leur importance, car nous avons cette certitude. Quels que soient les événements, notre Dieu est un Dieu de grâce. Son plan est celui de notre salut. Je vous invite à prier ensemble. Père, nous sommes trop souvent comme des enfants effrayés par les ombres de la nuit, par des illusions que nous nous forgeons nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, de ta vérité. Couvre-nous de ta lumière, Père, pour éclairer notre chemin et discerner ce qui est vraiment important. Aide-nous à grandir et à mûrir dans la foi. Répands sur nous ton Esprit Saint pour nous aider à méditer et à comprendre les trésors et les réponses que tu nous as transmis par ta parole. Nous savons que c'est ta volonté et nous t'en prions. Au nom de Jésus, ton bien-aimé Fils. Amen.
Chaque jour je me confie en toi. Et c'est Diego qui va nous apporter les 5 minutes enfants ce matin. Merci à lui.
Bonjour les enfants. Nous sommes restés à la maison pendant un bon moment, déjà tous. Nous avons fait plein de choses. Nous avons dessiné, nous avons chanté, nous avons sorti tous les jeux que nous avions fait des recettes. Nous avons appelé nos grands-parents, nos tontons, nos tatas, nos cousins. Nous avons baladé papa, nous avons rangé la chambre, nous avons baladé maman, nous avons tout fait. Mais ça commence à être long. Nous commençons à fatiguer. Vous avez certainement dit à vos parents « Je n'en peux plus !» Eh bien, les adultes, ces grandes personnes qui savent beaucoup de choses, mais on ne sait pas lesquelles, ils nous disent qu'il faut encore tenir bon, qu'il faut rester à la maison encore un moment. Comment faire quand nous n'avons plus d'idées? Comment tenir? Je vous propose une petite lecture de la Bible pour nous aider dans ces moments d'ennui et de fatigue. Ésaïe 40, 30. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Eh oui, ce premier verset nous dit que c'est normal de fatiguer. Vous êtes des grands champions, mais même les grands champions se fatiguent. Ils ont le droit. Je vous propose une petite expérience. Elle a besoin d'un peu de préparation, vous allez voir. Première étape, vous allez chercher deux livres. Deux livres que vous pouvez porter facilement. Vous allez les laisser devant vous un instant. Oui, ça peut être des annuaires si vous avez encore chez vous, non? Ben, c'est normal, ça n'existe plus les annuaires papier. Des bibles, ça peut être des bibles ou des dictionnaires. Voilà, deuxième étape. Vous allez demander à un de vos parents d'aller chercher un chronomètre ou une montre. Ça, ça existe encore. Pendant que vos parents cherchent, nous allons lire le verset suivant. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire d'ailes. Ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Avez-vous déjà vu des aigles voler? Non? À la télé, peut-être? Ils ont de grandes ailes, comme des avions. Mais on ne les trouve pas dans les aéroports. Elles se tiennent en haut des montagnes, sur des rochers escarpés, souvent. On se demande comment ils vont faire pour décoller. Eh bien, tout simplement, elle déploie les ailes d'un coup et elle se soulève en l'air, comme dit le verset. Elles peuvent faire ça plusieurs fois sans se fatiguer s'il le faut. Et puis, quand ils sont dans l'air, ils volent très très haut, sur de longues distances. Et quand ils ont assez volé, ils ne disent pas « Je suis fatigué, je veux me poser ». Non, ils continuent à voler. Nous allons continuer avec notre expérience. Vous allez tendre les mains vers les côtés, comme ça, et puis vous allez demander à un adulte de poser délicatement un livre sur chaque main et de comptabiliser combien de temps vous tenez. Non, ce n'est pas une punition. De nos jours, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle un défi, un challenge. Il vous semble que c'est facile, non ? Eh bien, essayez de tenir comme ça longtemps. Vous êtes comme des aigles. Vous ne vous sentez pas comme des aigles? Eh bien, nous allons demander aux adultes qui sont à côté de vous de vous aider. Vous allez laisser les bras tendus et ils vont enlever en même temps les poids des deux mains. Une fois que vous n'avez pas les livres, vous sentez que vos bras s'envolent, se soulèvent, comme si vous étiez des aigles, non ? Eh bien, si ça ne marche pas, vous retenterez l'expérience un peu plus tard. Cela occupera vos parents un moment cet après-midi. La Bible dit que nous nous fatiguons tous, mais que ceux qui comptons sur le Seigneur, nous avons des forces nouvelles, comme lorsque on nous enlève le poids de nos mains. Je vous invite à compter sur le Seigneur, à lui demander des forces quand vous sentez que vous n'en avez plus. Vous verrez, vous serez comme des aigles.
Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Rendez la fidélité que tu déploies sur moi.
Lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, à partir du premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi.
Dimanche dernier, nous avons laissé Pierre, le disciple, sur une plage du lac de Tibériade, en train de se restaurer d'un sandwich de poissons grillés au feu de bois. Se restaurer et aussi être restauré par Jésus, avec, nous l'avons vu, beaucoup de délicatesse et de douceur, être restauré du mauvais souvenir ou par rapport à ce mauvais souvenir qu'il avait de son reniement, son manque de confiance en lui. Et les derniers mots de Jésus sur cette plage sont significatifs. Il lui dit « Que t'importe ce que vont devenir les autres ? Arrête d'être dans la comparaison, Pierre. Toi, suis-moi. » Et Pierre va faire ce que lui dit Jésus, il va le suivre, non plus physiquement comme un disciple à l'époque, mais comme un témoin de la résurrection. Il va être le témoin du Christ ressuscité dans sa communauté de Jérusalem, dans son milieu juif, mais il va s'ouvrir aussi sur le monde des non-juifs, que l'on appelle gentiment les païens. Pierre devient un chrétien témoin déterminé et rayonnant. Il aura bien quelques faiblesses, comme quoi on est tous à la fois en chemin et en apprentissage, mais Pierre garde le cap. Et 30 ans après, dans les années 60, il va écrire une lettre aux chrétiens qui sont en Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, et qui se posent beaucoup de questions. Ils se posent beaucoup de questions par rapport à leur foi, parce qu'ils subissent des épreuves. Ils sont disséminés dans l'Empire romain, ils font partie de cette diaspora, c'est-à-dire cette dispersion chrétienne dont on parle au verset 1, dispersée et donc très minoritaire, et on leur fait bien sentir qu'ils sont quantité négligeable et ils seront, les chrétiens, négligés. Un terme les désigne bien, c'est celui de résident temporaire ou hôte de passage au verset 1. Dans l'original, le mot grec est très particulier, il nous parle d'un individu qui est en séjour limité et qui est sans statut ni protection légale, qui est juste toléré. D'autres traductions portent le mot étranger, immigrant, immigré, pour parler de la précarité de la situation et du statut de ces résidents temporaires. En tout cas, les chrétiens d'Asie mineure sont dans une situation qui n'est pas des plus favorables ni des plus confortables. Il y a de l'adversité dans l'air. Il y a des vents contraires. Et dans ce contexte d'épreuves en tout genre, Pierre veut, dans sa lettre, encourager ces résidents temporaires qui vivent dans une situation précaire et incertaine. Il veut les encourager parce que, en effet, ils pourraient perdre courage, dans le sens premier de courage, c'est-à-dire quelque chose qui est lié au cœur. Ils pourraient, en effet, perdre leur cœur, dans ce pèlerinage de chrétiens de première ou de deuxième génération, quand justement ce pèlerinage s'apparente plus au parcours du combattant qu'à une promenade de santé. Les épreuves sont nombreuses. Elles sont trop nombreuses peut-être. Et Pierre, dans toute sa lettre, va beaucoup parler de ces épreuves. Parce que la situation le demande et parce qu'il faut répondre à cette question que tout le monde se pose par rapport aux épreuves, comment les intégrer dans la vie chrétienne ? Que faut-il en faire ? Et la question se posait avec beaucoup de force aux premiers chrétiens parce que d'abord elles étaient nombreuses, ensuite parce que peut-être ils ne s'y attendaient pas. L'évangile, se disait-il peut-être, n'est-il pas la libération de toutes les entraves, la délivrance de toutes les pesanteurs de la vie, la guérison de toutes les maladies? N'est-ce pas la victoire totale sur l'adversaire et sur l'adversité? Et dans ces attentes, dans ce contexte d'attente peut-être un peu démesuré, les épreuves qu'ils subissent laissent planer un doute sur la pertinence de l'évangile. Le Christ lui-même ne nous a-t-il pas annoncé la vie abondante ? Et pour l'instant, se disent les chrétiens d'Asie mineure, ce qu'il y a d'abondant, ce sont plutôt les épreuves. Et donc le problème des chrétiens d'Asie mineure à qui est adressée cette lettre n'est pas celle d'une attirance vers un autre évangile, comme pour l'église de Colosse ou les églises de Galatie, mais c'est le problème de la pertinence de l'évangile. Il y aurait comme un doute qui plane. L'évangile résiste-t-il au test de l'épreuve? Une remise en question de la pertinence de la foi en temps d'épreuve qui vient peut-être rejoindre la nôtre ce matin.
Et devant ces interrogations et ces doutes, Pierre, qui s'y connaît un peu en matière d'épreuves, veut et va encourager. Parce qu'il est en prison lui-même, et parce qu'il sait combien la foi peut baisser jusqu'à s'enfoncer dans les eaux profondes du découragement. Il a connu les épreuves, il les connaît encore, et il partage son expérience d'homme de foi, pas celle d'un surhomme, mais d'un homme porté par la foi. Alors son but est vraiment d'encourager, on le voit à la fin de sa lettre, au chapitre 5, au verset 12, quand il dit « Par Sylvain, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et pour vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attaché. » Son but, c'est l'encouragement. Et en ce sens, il commence très fort au verset 3. Béni soit le Seigneur, loué le soigneux Seigneur, parce que dans son grand amour, etc., dans sa grande compassion, etc. Voilà une belle entrée en matière en termes d'encouragement, qui recentre tout sur Dieu et son amour. Et donc Pierre va envoyer du lourd en matière d'encouragement. On pourrait parler d'une vraie salve d'encouragement. Et la première a trait à l'espérance vivante. Vous avez été régénéré pour une espérance vivante. Naître à une vie nouvelle pour vous donner une espérance vivante, c'est au verset 3. Alors quand on prend le mot espérance tout seul, ça pourrait passer pour quelque chose d'un peu léger. Comme le mot espoir, dans l'expression, vous savez, l'espoir fait vivre. Hein. L'espoir serait une sorte d'utopie que l'on caresse dans le sens du poil et qui nous permet d'échapper au quotidien, mais qui a peu de chances de se réaliser. Mais Pierre, lui, parle d'une espérance vivante, c'est-à-dire d'une espérance qui ne meurt pas, dans le sens où elle ne déçoit pas, comme malheureusement beaucoup d'espoirs humains. Elle est vivante, parce qu'elle est centrée sur une personne qui est vivante, Jésus, qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. Il est lui-même notre espérance vivante et c'est parce que le tombeau est vide que nous pouvons vivre de cette espérance. Et nous avons été régénérés, nous sommes nés de nouveau, non pas pour une religion morte et fade, non pas pour un rituel froid, mais pour une relation vivante et vivifiante avec le Dieu vivant et vrai. Et cette espérance est aussi vivante dans le sens où elle a un impact de notre vie présente. C'est Samuel Bénétrou qui nous parle de l'espérance dans son commentaire qu'il fait de l'épître de Pierre. Et il nous signale que, je cite, « Le mot espérance n'a pas ici le sens habituel qu'il a en français, c'est-à-dire un sens subjectif d'attente d'un bien envié considéré comme accessible. » Non. Chez Pierre, l'espérance, c'est déjà l'entrée en jouissance d'un bien attendu et désiré. C'est déjà l'entrée en jouissance d'un bien attendu et désiré. Et pour bien comprendre Samuel Bénétrou, on pourrait prendre l'image de la corde, qui se dit justement « espérance » en hébreu, « tikva », comme dans Jérémie 29, 11. Avec une corde, on grimpe vers le sommet et le point d'ancrage de cette corde, le piton, il est au-dessus de nous. Et on grimpe à l'aide de cette corde, on monte, mais l'autre bout de la corde, il est déjà entre nos mains ou bien attaché à notre baudrier avec un mousqueton. La corde, ce n'est pas seulement le bout attaché au piton au-dessus, mais c'est aussi le bout qui est entre nos mains et avec laquelle on grimpe. L'espérance commence maintenant. L'espérance, selon Pierre, c'est profiter déjà maintenant de notre relation vivante avec Jésus. L'espérance est vivante, l'espérance est présente. Pendant le confinement, j'ai pu avancer dans certaines lectures, et suite au conseil de mon fils Simon, j'ai lu ce livre d'un pasteur écossais qui s'intitule « Surpris par l'espérance ». Et le titre, c'est déjà toute une histoire. Si on peut être touché par la grâce, on peut être surpris par l'ampleur de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Et l'espérance n'est pas une fuite dans le ciel ou dans le spirituel qui n'aurait aucun lien avec la réalité, mais c'est une espérance bien concrète et qui touche déjà au présent. C'est tout le livre de Tom Wright, Et on en parlera plus tard de ce livre, le temps que je le digère, mais je voudrais vous inviter avec Tom Wright à vous laisser d'abord toucher par la grâce et ensuite vous laisser de nouveau surprendre par l'espérance vivante qui est en Jésus-Christ. Et puis, verset 4, une deuxième salve d'encouragement, quand Pierre nous dit que Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. J'ai rencontré un jour, il y a assez longtemps, un jeune de 35 ans, j'avais le même âge que lui à l'époque, qui m'a dit, c'est Eric, j'ai dilapidé l'argent de ma famille en 2 ans. Et c'était un gars un peu rebelle, mais on sentait que, quand même, en disant cela, il avait quelques regrets. J'ai dilapidé l'héritage de ma famille en 2 ans. Mais en même temps, c'est un peu le lot de tous les héritages familiaux. On ne le dilapide peut-être pas, mais on le dépense, on finit par le dépenser. Mais l'héritage que Dieu nous réserve dans la cité d'en haut ne peut pas perdre sa valeur en bourse, ne peut pas être dilapidé, ni même dépensé, ni même amoindri. Il demeure intact parce qu'il n'est pas soumis aux fluctuations boursières, ni lié au taux de croissance économique d'un pays. Non, notre héritage est en Christ qui nous vient de Dieu, en qui il n'y a pas, dit l'apôtre Jacques, aucun changement, en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. On ne peut pas trouver garantie plus solide que cela. Et non seulement cet héritage nous est gardé, mais plus encore, nous sommes gardés pour cet héritage. Et il y a derrière ces mots « gardés » des notions de garantie, mais aussi de fidélité de Dieu, de solidité de Dieu, de protection de la part de Dieu et de confiance que l'on peut avoir en Dieu et en l'avenir. On pourrait redire cette phrase d'antan, « Tout passe, tout lasse, tout casse, mais l'héritage que Dieu nous promet dans sa parole demeure éternellement. Et tous les résidents temporaires, les hôtes de passage de France et de Navarre, ont besoin de réentendre cela. » C'est une salve d'encouragement que nous adresse Pierre le Rétabli. Et il le dit au verset 6, « C'est bien cela qui fait votre joie. » Alors, bien sûr, il y a des épreuves. Et Pierre continue ce verset 6 en disant, « Même si actuellement vous soyez attristés par diverses épreuves. » Et tout est dans le « même si ». Quoique. Et nous parlerons des épreuves dimanche prochain. Mais pour l'heure, Pierre veut nous encourager à retrouver la joie là où elle est, c'est-à-dire dans l'Évangile, c'est-à-dire dans la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité, un salut tellement énorme que même les anges désirent y plonger leur regard. Comme il est dit un peu plus loin dans le premier chapitre de la première de Pierre, au verset 12. La version du Semeur porte pour ce verset ce salut que les anges eux-mêmes ne se lassent pas de contempler. Oui, on ne se lasse pas de contempler la bonne nouvelle d'une espérance vivante et qui fait vivre, d'un héritage qui ne se dévalue pas et pour lequel nous sommes gardés. Nous avons besoin, nous aussi, comme les anges, d'y plonger notre regard, de regarder plus haut, plus loin, non pas pour fuir la réalité et nos responsabilités, mais pour intégrer ce que nous vivons dans cette autre réalité, c'est-à-dire qui est celle de Dieu, de son projet d'amour pour chacun d'entre nous et pour le monde aussi. Que ces vérités de la parole nous accompagnent dans notre pèlerinage sur cette terre, en particulier lorsque ce monde traverse un temps d'épreuve. Qu'elles renouvellent aussi notre foi et notre engagement dans ce monde que Dieu a tant aimé et qu'il aime toujours autant. Amen.
Je veux rester, tu seras toujours là.
On aura, comme tous les dimanches, en live ou pas en live, notre temps d'offrande. Et je pense que vous avez tous reçu un courrier qui nous fait l'état des finances dans cette situation particulière et qui nous appelle à continuer à donner régulièrement, soit en envoyant des chèques à Jane, pas pour Jane, mais pour l'Église, à Jane, et, ou alors de virer, faire des virements sur le compte. Je lisais dans Philippiens que Paul écrit à ses Macédoniens, les Philippiens, Philippe c'est en Macédoine, rappelait cette promesse que Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles, répète-t-il, selon sa glorieuse richesse, il pourvoira à nos besoins, et on compte bien sur ce Dieu qui pourvoit et qui montre sa fidélité dans sa providence. On passe à quelques annonces, c'est un petit peu toujours les mêmes, mercredi, la méditation de la mi-semaine sur le Notre Père, et puis rencontre de prière vendredi, 14 à 15 heures, pour ceux qui peuvent, et puis culte en ligne dimanche prochain avec toute l'équipe. Et puis, on signale, je vous l'avais déjà signalé, mais je le refais, le culte du 10 mai, un jour avant le déconfinement. On aura un culte en commun, toujours sur site, enfin sur YouTube, avec les églises libres de la région PACA, à 10h30. Donc, on peut l'écouter dès 10h30, et après, si on veut, mais on ne peut pas l'écouter avant. Donc, c'est à 10h30, dans un faux direct, comme on dit, et on vous enverra le lien avant. Sur l'image, sur l'écran, sur le diaporama, vous avez aussi ce numéro vert de la Fédération protestante de France, mis en place pour cette période de confinement, pour ceux qui ont besoin de parler, et je trouve que c'est une belle initiative. Il me semblait devoir dire un mot au sujet de ce déconfinement, alors qui est prévu le 11 et qui sera progressif, le 11 mai, mais qui sera progressif, mais un mot sur le déconfinement des rassemblements religieux. Il y a eu une vidéoconférence avec le président, le ministre de l'Intérieur et tous les représentants du culte. On a appris que le déconfinement des rassemblements religieux n'interviendrait pas avant début juin, voire mi-juin, voire peut-être un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que nous sommes partis pour tout le mois de mai et vraisemblablement un ou deux dimanches de juin à continuer à faire nos cultes en ligne. On espère bien que ça va cesser bientôt et qu'on pourra se revoir en respectant la distanciation, etc. On peut prier parce que c'est un sujet de prière, ce déconfinement, ce retour à la normale, entre guillemets. On est sûr de pouvoir être là en septembre quand même, mais je vous avertis déjà de notre week-end d'église qui aura lieu le 10 et 11 octobre à Matagna, au Rocher, dans les Alpes de Haute-Provence. Je ne vous en dis pas plus, mais réservez déjà la date. Donc 10 et 11 octobre. Voilà pour les annonces. Merci. Et c'est Nathalie qui va nous mener dans cette prière d'intercession.
Unissons-nous dans la prière pour présenter à notre Dieu nos requêtes et nos intercessions en faveur des hommes. En cette période troublée, Seigneur, où nous sommes pour chacun dans un temps différent, pour les uns c'est le confinement, ou pour les autres c'est le temps de l'action, pour soigner et pourvoir aux besoins de première nécessité. Nous voulons nous arrêter ce matin et être à ton écoute. En ce temps d'adoration, dans ta présence, nous voulons contempler qui tu es avant tout. Tu es celui qui est de tout temps, le bon berger, le tout-puissant, le Dieu de paix, le Dieu de justice, mais aussi le Dieu de miséricorde, celui qui pourvoit, celui qui guérit et celui qui console par ton Saint-Esprit. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Je te remercie, Seigneur, de venir au secours de nos inconséquences, de nos faiblesses, de nos chutes, mais aussi parfois de nos doutes et de nos peurs. Tu sais que l'être humain est vulnérable. C'est pourquoi, avec la venue de Jésus-Christ, tu nous as tendu la main. En effet, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour les malades guéris et l'accalmie de la pandémie qui s'opère aux urgences et dans notre pays. Merci pour la persévérance des soignants et de tous ceux qui manifestent de la solidarité envers leurs prochains. Nous souhaitons que cette bonne disposition perdure. Nous voulons encore te remettre tous ceux qui sont dans le deuil. L'angoisse, la lutte face à l'épidémie et te demander pour eux la consolation, la paix et le courage pour affronter leur situation. Nous te prions pour les personnes atteintes d'autres pathologies, afin qu'elles puissent aussi bien être prises en charge. Cela concerne aussi certains membres de notre Église et quelques-uns de nos proches. Seigneur, tu connais leur nom. Alors que pour la plupart, nous sommes comblés de biens relationnels par l'accès au réseau Internet, nous voulons t'apporter tous ceux qui sont coupés de toute relation et qui en souffrent. Aide-nous à voir autour de nous celui qui a besoin d'un mot, d'un signe, d'une aide dans son quotidien. Nous te remettons les maisons de retraite avec celle des Bougainvilliers, avec laquelle nous sommes proches, bien sûr tous nos aînés, afin que tu les protèges et les fortifies, ainsi que le personnel et tous ceux qui prennent soin d'eux. Nous t'exposons le projet de la reprise scolaire pour notre jeunesse. Nous aimerions que cette disposition soit faite en toute sécurité pour nos enfants. Inspire aux ministres, aux chefs d'établissement et aux enseignants une bonne organisation et accorde à chacun, comme aux familles, sérénité, confiance et bon sens. Nous confions à tes bons soins notre union d'église, notre conseil et notre couple pastoral, avec tous ceux qui participent de près ou de loin à faire durer notre communion et notre édification dans la foi, avec un esprit créatif et d'adaptation. Mon Dieu, insuffle ta sagesse à nos autorités, à nos élus et acteurs locaux pour prendre les bonnes décisions dans cette crise économique, avec le souci de l'intérêt de tous, des plus fragiles, sans exception de personne. Conduis les recherches médicales en cours dans un esprit d'unité. Nous ne voulons pas oublier nos missionnaires et les ONG dans les pays déjà en grande précarité qui sollicitent nos prières et notre soutien. Les sujets sont nombreux en ce temps particulier, mais toi, mon Dieu, tu ne changes pas. Tu es le rocher des siècles. Tu restes à notre écoute jour et nuit. À toi soit la gloire. Amen.
Un mot d'envoi et de bénédiction, et je lis le verset 13 de 1 Pierre, et puis je continue avec Paul dans Romains. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil, soyez équilibrés. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine.